Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous recevoir dans nos studios du Rocas de Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission de l'écho de ma commune, j'allais dire subventionnée mais non plutôt aidée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire, et nous sommes très heureux bien sûr de cette aide. Et je reçois aujourd'hui dans nos studios donc Xavier Nicolas qui est maire de Senonches et qui est aussi tout un tas d'autres choses, conseiller régional du Centre Val-de-Loire, président de la communauté de communes des Forêts du Perche, président de Énergie Eure-et-Loire, et enfin, et peut-être last not but least, président du CIDEP du Val-Saint-Cyr, qui concerne l'eau potable, de 14 communes. Bonjour Xavier, je suis ravie de vous recevoir.
Bonjour Marie-France.
Vous faites tout ça à la fois. Mais vous avez,
certes.
Vous travaillez combien d'heures par jour ?
Oh, je ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Et j'aime ce que je fais. Et donc, oui, c'est, je ne sais pas ce qu'est un temps plein. Si c'est 35 heures par semaine, j'en fais plus de deux.
Voilà. Oui, voilà, 70 heures à peu près.
Ah, au
c'est
moins,
ça.
Oui,
et
oui.
Vous réussissez quand même à trouver le temps de dormir ?
Oui, parce que quand on a enlevé 70 heures, il reste encore un tout petit peu de temps. Vous vous souvenez de ce que disait Coluche ? Mon père travaillait à mi-temps, 12 heures par jour, le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Voilà, c'est un petit peu ça, ma situation.
Vous avez une mairie qui est absolument remarquable, très, très jolie. Je l'ai vue il y a très peu de jours et je dois dire que c'est vraiment très agréable. C'est l'ancienne école de Senonches.
Oui, en effet, elle avait été rachetée par le conseil municipal dans les années 1880, au moment des lois Jules Ferry. Et donc, elle a été très longtemps, effectivement, un groupe scolaire, maternel, école de filles. Et puis, c'est mon prédécesseur, Jean Grandon, qui a décidé, dans les années 70, d'en faire le nouvel hôtel de ville. Et qui a été... qui a pris ses fonctions dans les années, au début des années 90.
Mais il est très bien placé, en plus, au cœur même de la ville de Senonches. C'est vraiment un très bel emplacement et... C'est très joli.
Oui, c'est une bonne idée de mon prédécesseur d'avoir effectivement sauvé ce bâtiment, qui est un bâtiment d'ailleurs inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Est-ce que ça donne des contraintes, des facilités ? Vous avez quelques...
La contrainte principale, je vais vous dire, c'est que c'est une passoire thermique. Et donc, il y a un budget énergie assez élevé.
Passoire thermique.
Oui. Et donc, voilà, là, nous allons engager, là, dans les semaines qui viennent, des travaux pour améliorer l'isolation, changer les huisseries, mettre des fenêtres, des portes
mieux isolées. Oui, c'est coûteux, mais indispensable, évidemment.
Oui, et puis, on est à une époque où on parle, effectivement, d'économie d'énergie. Et donc, aujourd'hui, des questions qui ne se posaient peut-être pas il y a 40 ans sont aujourd'hui des questions essentielles.
En fait, j'ai regardé un petit peu le site de la ville de Senonches, bien sûr, et le vôtre, et je me suis dit que vous deviez être un homme heureux parce que vous vivez entre eau et forêt.
C'est vrai.
C'est extraordinaire.
On a un cadre naturel extraordinaire à Senonches. On a un patrimoine bâti, vous l'avez rappelé, de qualité. On a 4 bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire ou classés monument historique. Vous avez parlé d'hôtel de ville, mais c'est le cas aussi de l'église Notre-Dame de Senonches.
12e siècle, pour le clocher.
Oui,
pour le clocher, c'est ça.
Et c'est le cas également de notre château, qui est lui, dont le donjon est classé monument historique, et puis le corps de logis inscrit à l'inventaire supplémentaire. C'est le cas enfin de notre cinéma, qui est même un bâtiment caractéristique du 20e siècle.
Et, ça, c'est amusant, ça, d'avoir classé un bâtiment du XXe siècle.
Oui, c'est la DRAC qui a mis en place. Ça, c'est,
et
ça,
est-ce c'est que le cinéma fonctionne toujours ?
Il fonctionne très bien.
Ah, c'est sympa,
Il fonctionne très bien. Il fonctionne tous les jours, sauf le jeudi, et avec des sorties nationales, des avant-premières, et nous avons à peu près 25-30 000 visiteurs par an au cinéma, donc c'est quelque chose de très satisfaisant.
En plus, c'est rentable.
On va dire que c'est équilibré.
Presque
équilibré. Voilà.
Et alors donc, ce château avec le donjon du XIIe, la même période que l'église, que le clocher de l'église, a été remanié aussi, lui, au XVIe, comme en fait, comme l'église.
Oui. Effectivement, il a été refait. Alors, c'est pourquoi il s'est passé pas mal de choses au XVIe siècle, parce que il se trouve que après les guerres d'Italie, il y a eu un rapprochement important entre le duc d'Alençon et le prince de Gonzague-Nevers. Ils ont marié leurs enfants et puis la fille du duc d'Alençon est devenue à épouser le prince de Gonzague et duc de Nevers.
Et est-ce que ça vient de là, les armes de ce nom?
Exactement, elles viennent de là.
Avec les deux rameaux de chêne, ça je suppose
ce sont
que
les
c'est
armes,
votre
ce sont les armes de Mantoue, tout à fait.
Celles de la ville de Mantoue, voilà. Ou bien précisément de cette jeune personne?
Ça vient de cette période, de ce mariage, et je sais même aller plus loin que ça, parce que après avoir reçu le comté de Senonche en dot, le roi de France Charles IX, par un édit de 1566, a fait de Senonche une principauté. Pendant, ça a duré un peu moins d'un siècle, Senonche a donc été une principauté. Il y avait un prince de Senonche, donc qui administrait. Et c'est donc à ce moment-là, au XVIe siècle, que le château. Alors c'était Senonche et Brezolles. Hein, ça englobait, ça allait jusqu'à Brezolles. Et c'est à ce moment-là que les Gonzague Mantoue donc ont vraiment restauré le château, réhabilité, aménagé le corps de logis. Ce n'était plus simplement un château fort de défense. Ils en ont fait un château d'habitation à ce moment-là.
Ça devait être très agréable. Et puis cette princesse italienne devait être contente d'être dans cette forêt.
Voilà, italienne par son mariage, hein, parce qu'elle elle était française.
Et c'est
elle qui a épousé le prince. D'où la dot. Voilà,
d'accord.
D'où ce nom en dot. Voilà.
Oui. Belle dot.
Mais ce qui intéressait surtout, ce qui a toujours intéressé les seigneurs qui ont possédé Senonche, c'était la forêt, parce que la forêt de Senonche a toujours, et elle l'est toujours, toujours été rentable. Voilà.
Giboyeuse aussi peut-être.
Et giboyeuse. Alors eux, bien sûr, ils aimaient la chasse.
À cette époque, certainement.
Bien sûr, c'était
plus.
Très important, encore plus qu'aujourd'hui, puis c'était réservé à l'aristocratie.
Oui.
Et puis l'exploitation forestière du chêne également. Voilà. Mm-hmm. Chêne et duêtre. Voilà. Alors ça, c'était au XVIe siècle. Et puis au XIXe siècle, parce qu'entre le XVIe et le XIXe, il s'est passé pas mal de choses. Donc après les Gonzague Mantoue qui n'ont pas eu d'enfants, donc ce nom est retombé, est revenu à la couronne de France. Et il y a eu des grandes familles, les De Breuil en premier, puis les Bourbons, Bourbon-Condé, Bourbon-Conti, qui possédaient Senonche. Et enfin, Louis XV a racheté Senonche pour son petit-fils, Louis Stanislas Xavier, futur Louis XVIII, frère du roi Louis XVI, et donc qui a été le dernier seigneur de Senonche. Bien sûr, là aussi, le but, c'était toujours la chasse. Hein. Et
ça faisait
révolution.
Quand même un peu loin de Versailles.
Vous savez, il y avait beaucoup de monde dans notre département de Versailles. Hein. Regardez, on avait la Pompadour, on avait les écluses de Boisard pour amener l'eau.
Ah oui, on en parlera,
si
ça,
vous voulez.
Mais
pour amener l'eau à Versailles.
Sûr.
Bon, c'est vrai que ça prenait plus de temps qu'aujourd'hui. Mais la notion de temps, surtout chez les aristocrates, n'était pas la même que la nôtre. Hein. Il n'était pas surmené par le travail, peut-on dire.
Il prenait le temps en carrosse
voilà.
De se faire la conversation.
Exactement.
Et bon. Michel Le Tuilier m'avait raconté que, qui est donc le maire de Chérisy, le
oui,
cours
de
Chérisy,
ouais.
En
ouais.
Plus un cousin à moi.
Aussi.
Et Michel m'avait raconté que le pont de Chérisy avait été agrandi, élargi, pour que les voitures de la Pompadour puissent passer.
Ah oui, extraordinaire.
Ouais. Formidable,
ah
ça.
Ouais. Ah oui, rien n'était trop grand. Hein.
Ça, c'est certain. Bah, remarquez, quand on voit les écluses Boisard qui devaient servir à porter l'eau de l'Eure à Versailles, c'était le vœu de
Louis XIV. La duc de Maintenon, tout ce qui a
oui,
été fait.
Oui, aussi, bien sûr.
Ouais.
Je me demande si, au passage, le château de Maintenon n'a pas été un peu arrosé pour Madame de Maintenon. Peut-être aussi, c'était ça le but de l'opération. C'est assez étrange, Xavier, parce que finalement, rien de nouveau sous le soleil. La nappe d'eau souterraine captée en forêt à Rueil-la-Gadelière.
Oui, pour la ville de Paris.
Sert Paris maintenant.
Bien sûr, ce sont les eaux de Paris.
Alors, ce sont les eaux de votre Senonchois qui partent de
oui,
toute façon
qui viennent de
vers
la forêt,
capitale
là, voilà,
et vers Versailles.
Alors, j'avoue, effectivement, je peux terminer un petit mot sur le château, puis
bien
je
sûr,
vous parle de notre aussi. Juste pour vous dire qu'après la Révolution, effectivement, le château et la forêt ont été confisqués.
Par qui ?
Par la Convention, hein, par les révolutionnaires.
Oui. Et ils ont tout détruit.
Ils n'ont rien détruit. Simplement, c'est devenu propriété de l'État.
Mm-hmm.
Et la forêt est toujours d'ailleurs à l'État. C'est toujours une forêt domaniale, la forêt de Senonche. Par contre, le château a été revendu à un maître de forge qui en a fait don à la commune en 1831 pour faire une école. Et donc c'était une autre école, c'était la première école de ce nom là, c'est l'école de garçons qui était là. Et c'est amusant d'ailleurs, c'était une école mutuelle avec des enseignants qui avaient 50 élèves et qui s'appuyaient sur les meilleurs élèves pour les aider, encadrer les autres. Et parce que c'était un travail compliqué d'enseigner à des classes multiniveaux avec 50 élèves dans une classe. Et le groupe d'histoire locale a fait tout un travail sur ce type d'école qui a peut-être fonctionné le temps d'une génération seulement.
Voilà. Écoutez, les temps changent quand même. J'ai entendu ce matin à la télévision que c'était des petits robots qui assistaient les maîtres japonais dans leurs écoles.
Ah oui,
des
oui.
Petits robots, l'intelligence qui racontent
artificielle.
Des histoires.
Oui.
Bon, je préfère les meilleurs élèves.
Les moniteurs, les bons élèves.
C'est certain. Alors donc ça, c'est votre château. Le logis du 16e est toujours. On peut le visiter.
Alors nous, voilà. Après, si vous voulez, quand il y a eu les nouveaux groupes scolaires, le château de Senonches est tombé en désuétude. Quand j'ai été élu en 2001, j'ai été saisi de cette question, notamment par le groupe d'histoire locale dont je viens de parler, et on a totalement réhabilité le château, qui était dans un état de mauvaise conservation. Hein. Il n'était même plus visitable, hein. Ça aurait été dangereux. Donc on l'a complètement refait. On va dire dans les années autour des années 2005-2010, entre 2005 et 2015, et puis on y a installé ensuite une scénographie justement précisément sur la forêt, le rôle de la forêt piège à carbone, la photosynthèse, la faune, la flore de la forêt, la filière bois. Donc sur les trois étages du logis, il y a tout un système de bornes interactives qui permettent aux adultes comme aux enfants, il y en a pour tous les goûts, de se documenter sur la forêt et la filière bois.
Mais piège à carbone, c'est très vrai. En plus, parce que c'est vrai qu'un arbre, seulement un arbre, absorbe je ne sais pas combien de carbone.
De CO2, oui.
De CO2,
oui.
À lui tout seul.
Bien
alors,
sûr,
quand on est au milieu d'une forêt, c'est
ah ben voilà,
l'air
pour,
est très sain.
Au moment où il fabrique les feuilles, là, c'est très important. Puis la photosynthèse, là, qui a lieu, voilà. Effectivement, les feuilles avec la chlorophylle, ben, elles absorbent le CO2 et puis elles rejettent l'oxygène. Donc, c'est au fond sur la planète, on a le phytoplancton des océans et puis les forêts, hein, qui sont les deux gros pièges à carbone.
Et c'est donc, pour c'est ça très qu'il faut
important
se battre contre
toute
la
déforestation.
Déforestation.
Absolument.
C'est...
Alors on parle de tout ça, on monte ça, et puis après on a des immersions audiovisuelles aussi sur la forêt. Donc on peut y passer une heure comme on peut y passer la journée entière.
On choisit.
En
et il y a des balades aussi dans votre forêt.
Oui, et on renvoie aussi sur un sentier pédagogique qu'on a fait avec le département et l'ONF, qui permet un petit sentier de 600 mètres accessible aux handicapés, à côté du collège, et qui permet aussi, après avoir visité le château, ou avant d'ailleurs, d'aller se rendre compte de ce que les gens ont appris, de ce qu'ils ont vu, et puis il y a des panneaux d'information, et c'est une petite promenade ludique, il y a des aires de pique-nique aussi, et c'est en ville, à côté du collège.
J'ai appris, alors là j'étais vraiment stupéfaite, que votre forêt domaniale est la plus grande d'Eure-et-Loire.
Oui.
Avec 4287 hectares.
Oui.
C'est considérable.
Ça, c'est juste la partie domaniale, mais en réalité, avec les forêts privées autour, quelques forêts communales, l'ensemble forestier fait plus de 10 000 hectares. Oui.
Des forêts privées.
Oui, il y a beaucoup de forêts privées aussi autour. Oui. La majorité des forêts, d'ailleurs, privées, enfin la majorité des forêts en France sont privées. Oui, oui.
Mais je pensais que ça existait simplement en Sologne ou dans des endroits comme ça.
Un peu. Alors, c'est compliqué, la forêt privée, parce que souvent, avec le jeu des successions, au bout de plusieurs générations, les propriétés sont très morcelées et donc la gestion s'en ressent. Voilà.
Et on peut construire quand même dans ces forêts privées ?
Ah non, non, non. Ah non, c'est pas du tout construit.
C'est juste pour la promenade, la chasse et l'exploitation des bois.
Oui, c'est cela. C'est ça. Après, c'est les propriétaires qui décident, mais ils ne peuvent pas construire. Ils peuvent, parfois, elle est ouverte au public, la forêt privée, ça arrive. Parfois, il y a des propriétaires qui choisissent de fermer leur forêt. On a quelques grandes familles, d'ailleurs, qui sont limitrophes de la forêt de Senonches.
Et ah selon... oui ?
Oui, bien sûr. Voilà, Monsieur Louis Vuitton, par exemple, qui a une forêt.
Ok.
Voilà. Monsieur Beignet en a une aussi. Voilà, ce sont des gens qui sont des chasseurs et qui ont leur forêt. Voilà.
Et donc, vous avez rien que pour cette forêt des Carnutes. Ah oui, la forêt des Carnutes. Ben moi, oui. Je croyais que c'était la forêt de Dreux, la forêt des Carnutes. Mais pas du tout, c'est Senonches.
Mais à l'époque, certainement, tout ça ne faisait qu'une seule forêt, autrefois.
Ça devait être gigantesque.
Oui, certainement.
Enfin, quand même, 10 000 hectares, on est tranquille, là, pour ce qui est de notre préservation.
Voilà,
bon.
on essaye de sauvegarder tout cela avec l'ONF et l'Association des Amis de la Forêt de Senonches.
Et votre partie de forêt qui vous appartient, enfin à la commune de Senonches, dans la ville de Senonches, est-ce qu'elle est exploitée par vous ?
Alors nous n'en avons plus de forêts qui appartiennent à la commune. On en avait une en fait qu'on a vendue aussi à un privé qui avait souhaité s'en occuper, voilà. Mais nous n'avons plus, en dehors d'une partie que nous avons transférée à la communauté de communes pour installer le village forestier Utopia, dans le centre de Senonches.
Racontez-moi Utopia.
Utopia, en fait, sont des cabanes en bois dans la forêt, au bord d'un étang, et qui accueillent 8 à 10 000 nuitées par an de gens qui, plutôt que de prendre une chambre d'hôtel, ils décident de louer une cabane en bois, mais avec tout le confort.
Je demande.
Et puis, il y a des services autour, en plus. Il y a un bar, il y a une petite maison sur pilotis qui donne sur l'étang. Il y a un spa.
C'est merveilleux. Il y a un spa. Et qui gère ça ?
C'est la société Utopia qui gère dans le cadre d'une délégation de services publics et qui verse à la communauté de communes qui est propriétaire de l'ensemble. Donc Utopia nous verse un loyer, une redevance de services publics.
Enfin, installé comme ça, c'est toujours pas une utopie.
Ça a beaucoup... Non. Pas du tout.
Elle est très très mal nommée cette société.
Mais c'est Utopia avec un H.
Ah, d'accord. Donc je comprends. Et combien vous dites de nuitées ?
À peu près 8 à 10 000 par an. Alors l'été, en début de saison.
RNB est battu, hein ?
Peut-être pas, mais en demi-saison, parce que c'est ouvert de Pâques à la Toussaint, en demi-saison, donc le week-end, surtout les Parisiens. En semaine, il y a des séminaires d'entreprises qui viennent, parce qu'il y a une salle aussi, une salle de séminaire.
Au calme.
Donc voilà, ça leur plaît beaucoup, les Parisiens, ça permet en une heure de route d'avoir tout de suite une rupture.
Bien sûr.
Et de pouvoir que cette rupture favorise les bons échanges dans le cadre d'un séminaire de travail.
Une heure de route.
De la région parisienne à Senonches. Ouais. Voilà, une heure, entre une heure et deux heures selon l'endroit où il se trouve en région parisienne. Voilà. Et puis en été, eh bien, on a beaucoup d'Européens du Nord. Là, ce sont les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Allemands. Voilà.
Ils apprécient énormément le tourisme vert.
Ils viennent, voilà. Le tourisme, voilà.
Et c'est
ce
votre
sont des gens
marque
qui aiment
de
la nature.
Fabrique, là,
c'est
le tourisme
clairement
vert.
Notre marque de fabrique, très clairement.
Ça, voilà. C'est formidable.
Et Senonches est d'ailleurs station verte de vacances également.
Station verte. Et on peut se baigner dans les étangs, dans les sources ?
Alors, on ne peut
dans
pas se baigner. Non, 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 non. Nous ne recommandons pas la baignade dans nos étangs.
Et il y a du poisson ? Il y a des pêcheurs ?
Oui, par contre, on a des pêcheurs. Et effectivement, il y a une saison de pêche. Et puis, il y a des concours. Il y a toute une animation. Là, c'est l'association de pêche qui s'occupe de cela.
Vous en avez quelques-unes des associations sur ce nom, certainement.
Oui, on a plus d'une. Oui, on a 40-50 associations à peu près. Oui.
Qui s'occupent toutes des loisirs des Senonchois.
Alors ça peut être la culture, le sport aussi, les associations sportives.
Et alors le percheron est sympathique, ce cheval.
Autrefois, il avait un rôle essentiel en forêt de Senonches, parce qu'il avait un rôle de débardeur. C'est lui que
tire les grumes,
c'est clair. Aujourd'hui, ce sont des gros engins qui nous font des ornières, c'est plus pareil. Et ça ne se trouve plus tellement. On avait, à un moment, il y avait l'IME de Manou qui avait des chevaux percherons et qui proposait cela, qui formait des jeunes à ces métiers, mais hélas, petit à petit, ça disparaît.
En fait, il a un caractère extraordinaire, ce cheval. J'ai vu qu'il était grand et puissant, à sang-froid.
Oui.
Docile et facile à manœuvrer. Petite
oui, c'est
bête. Écoutez.
Que de qualité.
Alors, en fait, l'élevage a redémarré aux USA en 1960 et un petit peu plus tard, presque 30 ans plus tard, en 90 en France, il a vraiment repris pas mal de territoires, si on peut dire, et particulièrement au Haras du Pin.
Oui.
Je crois qu'ils font...
Oui, il y en a. Et puis le parc du Perche a des relations aussi privilégiées avec les éleveurs de percherons, qui s'inquiètent un peu parce que beaucoup vieillissent et se demandent si...
Vous voulez dire les éleveurs ou les chevaux?
Les deux, les deux, mon général, mais c'est surtout le problème des éleveurs, parce qu'il faut s'assurer que derrière eux, il y aura une succession pour maintenir le cheval percheron.
Bon, il faut faire une campagne, là.
C'est ce dont s'occupe le parc.
On va appeler Stéphane Bern, attendez.
Il faut peut-être qu'il en parle.
Oui,
c'est sûr, il aura plus d'influence que nous.
On va lui demander.
Pourquoi pas.
Xavier, peut-être peut-on reparler un petit peu des temps anciens, très anciens même, de cette tour-porche du XIIe siècle.
Oui, on a quelques tours-porches qui... Alors bien sûr, c'est...
C'est très caractéristique de la région.
Oui,
ou bien...
c'est caractéristique de la région. C'était en fait l'entrée au château et... mais qui servait vraiment, c'est un système de défense. Il nous reste d'ailleurs quelques vestiges de la muraille qui était autour du château. Et d'ailleurs, c'est cette tour-porche qui est classée monument historique, hein, qui est en pierre de grison, comme le donjon de l'église.
Et à l'époque, une roche dure, donc.
Oui, une roche riche en oxyde ferrique, hein, d'où sa couleur brune, rouge-brune, et qui durcit avec le temps. Et là, vous voyez, ce sont des bâtiments qui ont 8 siècles et qui sont vraiment d'une solidité.
8 siècles.
Oui, oui. Quand j'ai refait le château, ce que j'ai dit à l'architecte, j'ai dit, écoutez, ces bâtiments ont 8 siècles, il faudrait qu'on fasse quelque chose de solide, parce que je veux être tranquille pour les 8 prochains siècles.
Oui, voilà. Bien sûr.
Voilà. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que le fondateur du château de Senonche, à cette époque, qui était Hugues II de Châteauneuf, mm-hmm, n'avait pas fait de fondation. Et donc, quand nous avons restauré le château, donc je vous disais, une dizaine d'années, nous avons dû...
Ça a tenu pendant 8 siècles.
8 siècles sans fondation.
Sans fondation.
Sans fondation, tout à fait. Aujourd'hui, on n'aurait pas...
La pierre de grison, elle est...
Vous voyez, ça a bien tenu.
Ah
hein.
Oui.
J'ai demandé à l'architecte comment tout tenait. Il m'a dit par habitude.
Ah bon? Alors, j'ai cru qu'il allait dire par miracle, mais non, c'est par habitude.
Peut-être un peu les deux. Et donc, comme je suis un scientifique rationnel, j'ai préféré qu'on rajoute des micropieux. Et on a mis des micropieux...
Comme à Venise
C'est un peu ce principe. C'est comme les forages de pétrole. Hein, ce sont des micropieux qu'une société spécialisée a mis au niveau du rez-de-chaussée du château. On en a mis une vingtaine, ils sont à 25 mètres. Comme des forages, c'est vissé, ils sont creux, on les met dans le sol comme un forage de pétrole. Quand ils arrivent d'ailleurs dans la nappe phréatique, ça projette par le milieu creux, il y a l'eau qui arrive sous pression, je vous assure, les opérateurs là, qui font ça, les pauvres, ce ne sont pas des conditions de travail faciles. Et une fois que tout est en place, on coule du béton sous pression à l'intérieur. Donc là, je veux dire, ça tiendra plus par habitude. Ça tiendra d'une manière tout
mais
à
oui,
fait...
Mais oui, mais ces pieux, ils sont sous le bâtiment.
Sous le bâtiment, dans le sol.
Mais comment vous les passez?
Sur 20 mètres. C'est avec des machines spéciales. On crée un forage. Et à l'intérieur,
l'intérieur du bâtiment.
Voilà, par l'intérieur du bâtiment, quand on a fait la restauration. Voilà.
Oui, donc là, vous êtes tranquille. Dans 8 siècles, on se revoit et il n'y a pas de problème.
Nous en reparlerons.
Xavier, merci infiniment d'être venu dans nos studios. Vous reviendrez bientôt, j'en suis certaine. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus chez vous. Émilie Glory, directrice d'antenne de Radio Grand Ciel, enregistrera cette émission et la réalisera. Merci à vous. Au revoir, Xavier.
Merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt, Marie-France.